Assez le témoin.
Bonjour, c'est un plaisir d'être avec vous tous. La semaine dernière, j'étais absent, car je célébrais le mariage d'Ajin et Druvi, qui étaient parmi nous autrefois. Ce fut un moment béni avec eux. J'ai donc été triste de manquer le dimanche de la Pentecôte, même si j'ai pu participer en ligne. Cette année, le pays du Rwanda m'avait demandé d'être leur parrain pour le dimanche de la Pentecôte. Et comme je n'étais pas là la semaine dernière, je porte aujourd'hui leurs vêtements, alors merci au Rwanda. Puisque nous parlons de la rencontre de nombreux pays, l'été dernier ont eu lieu les Jeux Olympiques d'été en France. Donc il faudra attendre encore 3 ans pour les prochains Jeux Olympiques. Mais mon épreuve préférée aux Jeux Olympiques est le relais 4x100 mètres. D'abord, ce sont les personnes les plus rapides du monde. Alors les regarder courir à ce niveau est incroyable. Mais la raison pour laquelle je préfère le relais aux 100 mètres, c'est à cause du passage de témoin. Ce moment où le coureur doit passer le témoin, ce petit bâton, au prochain coureur. Vous pouvez être le coureur le plus rapide du monde, mais si vous ne savez pas comment recevoir ou transmettre le témoin au prochain coureur, votre équipe perd. Vous pouvez trouver de nombreux extraits sur YouTube de courses où les coureurs ont échoué lors du passage de témoin. Ils ont laissé tomber le témoin ou ils n'ont pas pu atteindre la personne suivante à temps pour le lui transmettre. Mais si vous recevez ou donnez bien le témoin à la personne suivante, votre équipe a une chance de gagner. Ce matin, nous allons donc examiner un moment dans la Bible où il y a eu un passage de témoin, pour ainsi dire, quand une génération passait le témoin à la génération suivante. Et je veux que vous vous posiez la question ce matin, que faites-vous de votre témoin? Que faites-vous des choses et des connaissances que Dieu vous a données? Êtes-vous en train de les transmettre à la génération suivante? Investissez-vous dans l'avenir du peuple de Dieu, ou gardez-vous le témoin pour vous-même, de peur de le laisser tomber ou de le perdre?
Eh bien, c'est ce que je veux que nous examinions ce matin, alors si vous avez une Bible, veuillez l'ouvrir avec moi à 2 Rois 2, verset 1. C'est la 5e et dernière semaine de la série de sermons sur Élie. Si vous n'avez pas été avec nous, nous avons étudié le prophète de l'Ancien Testament Élie. Nous l'avons vu à ses plus grands moments, lorsque le Seigneur s'est servi de lui pour faire descendre le feu du ciel sur le mont Carmel. Et nous l'avons vu à ses moments les plus bas, lorsqu'il était profondément découragé et voulait mourir. Et maintenant dans 2 Rois 2, nous arrivons à la fin de l'histoire d'Élie. Voyons donc comment il passe le témoin, pour ainsi dire. 2:1. Or lorsque le Seigneur allait prendre Élie au ciel dans un tourbillon, Élie et Élisée partaient de Gilgal.
Le début du verset 1 nous informe de ce qui va se passer. Élie ne quittera pas cette terre à cause d'une crise cardiaque ou de la vieillesse.
Au lieu de cela, Dieu va l'enlever au ciel dans un tourbillon. Cela nous rappelle Hénoc dans la Genèse 5, qui lui aussi ne mourut pas, mais fut également enlevé au ciel. Comme nous l'avons vu, Élie n'était pas un prophète ordinaire, et il ne quittera pas non plus la terre d'une manière ordinaire. Mais avant de monter,
Élie et Élisée ont encore un peu de temps ensemble.
Élie et Élisée ne sont pas des frères jumeaux avec des noms similaires. Ce sont des prophètes du Seigneur. Dans 1 Rois 19, lorsque Élie voulait mourir, le Seigneur a dit à Élie que Dieu n'en avait pas fini avec lui et qu'Élie avait encore du travail à accomplir. Et l'une des choses que Dieu a demandé à Élie de faire était d'oindre Élisée,
qui prendrait finalement la place d'Élie en tant que prophète du Seigneur.
Ainsi, Élie est devenu un mentor pour Élisée. Ils ont passé des années ensemble. Élisée a appris auprès d'Élie. Et comme nous allons le voir dans les versets d'aujourd'hui, ils sont devenus proches et chers l'un à l'autre.
2.
Et Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie, car le Seigneur m'envoie jusqu'à Bethel. »
Mais Élisée répondit, « Aussi vrai que le Seigneur est vivant,
et aussi vrai que tu es vivant toi-même, je ne te quitterai pas. »
Ils descendirent donc à Bethel. Élie dit à Élisée qu'il n'est pas nécessaire qu'il l'accompagne plus loin.
Nous ne savons pas exactement pourquoi. C'était peut-être une sorte d'épreuve. nous ne pouvons que spéculer. Mais l'essentiel, c'est que Élisée ne veut rien entendre. Il ne veut pas quitter son mentor. Il est possible qu'ils aient passé près de 18 ans ensemble. Un lien s'est formé. Ce n'était pas seulement un programme de formation. Une relation s'est construite. Il était connu qu'Élisée prendrait la relève d'Élie lorsque ce dernier aurait terminé. Certaines personnes, avides de pouvoir ou de renommée, seraient peut-être heureuses que le chef s'en aille. Elles diraient « D'accord, je vais rester ici. À plus tard, Élie. » Mais intérieurement, elles pensent « Enfin, je vais devenir le chef. J'aurai tout le pouvoir. » Mais ce n'est pas le cœur d'Élisée. Il ne se préoccupe pas du nouveau poste ou d'une promotion. Ce qui compte pour lui, c'est Élie. Ils ont un lien. Ils ont une relation profonde.
Dans la Bible, nous voyons encore et encore le commandement de transmettre ce que vous avez appris à la génération suivante. Deutéronome 6, versets 4 à 7, dit « 4. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un. 5. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force.
6. Et ces paroles que je te commande aujourd'hui seront dans ton cœur. 7. Tu les enseigneras avec soin à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras assis dans ta maison, quand tu marcheras en chemin, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. »
Dans 2e Épître à Timothée 2, 2, Paul dit à Timothée, « Ce que tu as entendu de moi, en présence de nombreux témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui seront capables aussi d'enseigner les autres. »
Je, Tite 2, 3, 5, dit aussi, 3. Les femmes âgées doivent également se conduire d'une manière digne de sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées à beaucoup de vin, qu'elles donnent de bonnes instructions. 4. Afin d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants. 5. À être retenues, chastes, occupées aux soins de leur maison, bonnes, soumises à leurs maris, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée.
Il y a ici une chaîne. Prends ce que tu as appris et transmets-le à tes enfants, comme un témoin lors des Jeux Olympiques. Prends ce que tu as appris et transmets-le à la génération suivante, comme un témoin. Sois un exemple pour eux, forme-les dans les voies du Seigneur, afin qu'ils puissent à leur tour le transmettre à la génération suivante, et ainsi de suite. Mais nous voyons aussi dans la Bible, et nous le voyons ici dans la relation entre Élie et Élisée, que ce n'est pas simplement un transfert de données. Il ne s'agit pas seulement de télécharger des informations et des connaissances dans la prochaine génération. Ce n'est pas un simple déversement de données. Il s'agit plutôt d'un enseignement et d'une formation à travers la relation. Ce n'est pas juste un transfert de données, mais cela passe par le temps passé ensemble dans une relation. Jésus a enseigné beaucoup de choses à ses disciples. Mais ils mangeaient aussi ensemble, ils marchaient ensemble, il les appelait ses amis. Élisée ne voulait pas qu'Élie parte parce qu'ils étaient proches. Je crois que chaque croyant devrait avoir quelqu'un comme Élie dans sa vie, un mentor.
Quelqu'un pour t'enseigner le chemin et te donner un exemple. Quelqu'un qui a plus d'expérience et de sagesse que toi. Quelqu'un qui t'ouvre sa vie afin que tu puisses suivre son exemple. Chacun devrait avoir quelqu'un comme Élie dans sa vie. J'ai eu la chance d'avoir quelques mentors comme Élie dans ma vie, et je suis ici aujourd'hui grâce à l'investissement qu'ils ont fait en moi. Nous devrions tous avoir quelqu'un comme Élie au-dessus de nous, et nous devrions tous avoir quelqu'un comme Élisée sous notre responsabilité. Quelqu'un que tu mentores, quelqu'un que tu enseignes et formes, quelqu'un dans qui tu investis. Je pense que la plupart des gens sont d'accord avec l'idée d'avoir un Élie, un mentor, dans leur vie. Mais la plupart des gens ne se sentent pas assez confiants pour être un Élie pour quelqu'un d'autre. La plupart des gens ne se sentent pas assez confiants pour être un mentor. Ils ne se sentent pas assez expérimentés ou assez sages. Et d'un côté, cette humilité est bonne, mais nous avons tous quelque chose à donner, même si tu ne te sens pas prêt.
Que personne ne te méprise à cause de ton âge, mais sois un modèle pour les croyants en foi, en conduite, en amour et en pureté. Tu n'es jamais trop jeune pour être un exemple pieux. Peu importe ton âge, si tu cherches à suivre Jésus et à marcher dans ses voies, alors tu peux être un exemple dès maintenant. Tu peux avoir 40 ans, tu peux avoir 20 ans, tu peux avoir 10 ans. Cela n'a pas d'importance.
Ce que je veux dire, c'est que nous devrions tous chercher autour de nous des gens comme Élisée, dans lesquels nous pouvons investir. Quelqu'un avec qui tu peux passer du temps. Que tu peux inviter chez toi. Quelqu'un que tu peux enseigner et former dans les voies de Dieu. Peut-être que le mot « mentor » est trop fort pour toi. Alors pense-y comme à être un grand frère ou une grande sœur pour quelqu'un. Qui est cet Élisée dans ta vie? Qui Dieu a-t-il placé dans ta vie sur qui tu as de l'influence?
Être un mentor ne signifie pas que tu as toutes les réponses. Être un mentor signifie simplement que tu es un peu plus avancé sur le chemin de la vie et que tu veux aider les autres dans leur parcours également. Nous devrions tous avoir quelqu'un comme Élie dans nos vies, un mentor, quelqu'un qui peut nous montrer la voie, et nous devrions tous avoir quelqu'un comme Élisée dans nos vies, quelqu'un dans qui nous pouvons investir, avec qui nous pouvons bâtir une relation, à qui enseigner et former dans les voies de Dieu. Élie a dit à Élisée de rester et de le laisser partir, mais Élisée ne pouvait pas faire cela. Leur relation était trop profonde, alors ils ont continué ensemble. 3. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent « Sais-tu qu'aujourd'hui l'Éternel va enlever ton maître au-dessus de toi ?» Et il répondit « Je le sais aussi. Gardez le silence. » Dans ce verset, nous rencontrons les fils des prophètes à Bethel. Ce sont des étudiants. C'est la prochaine génération. Quelqu'un m'a demandé récemment « Qu'est-ce qui se passe avec tous ces jeunes qui prêchent à l'église en ce moment ?» Est-ce que tu es en train de te retirer toi-même? Non. Je n'ai pas l'intention de me retirer. L'idée, c'est d'élever une nouvelle génération de prédicateurs et d'enseignants qui peuvent être formés et servir le royaume de Dieu. Nous devrions toujours avoir un œil sur aujourd'hui et un œil sur demain, sur l'avenir. Nous devrions toujours être en train de former, d'enseigner et d'élever la prochaine génération pour la gloire de Dieu. Ainsi, nous voyons ces étudiants prophètes. Peut-être étaient-ils directement sous l'autorité d'Élie. Peut-être ont-ils été formés par quelqu'un d'autre. Dans tous les cas, ils savaient que quelque chose allait se passer ce jour-là.
Ils demandent à Élisée s'il sait que Dieu va enlever Élie ce jour-là. Et Élisée, qui est aussi un prophète, le sait déjà. Il dit, « Oui, je le sais. Gardez le silence à ce sujet. »
Le cycle se répète au verset 4 et 5.
4. Élie lui dit, « Élisée, je te prie, reste ici, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. » Mais il répondit, « L'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te laisserai pas. » Ils arrivèrent donc à Jéricho.
5.
Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, « Sais-tu qu'aujourd'hui, l'Éternel va enlever ton maître au-dessus de toi ?» Et il répondit, « Je le sais aussi, gardez le silence. » Encore une fois, Élie demande à Élisée de rester, mais Élisée ne veut pas quitter son mentor. Cette fois, ils vont à Jéricho. Il est intéressant de noter les lieux où Élie se rend en ce dernier jour. Tous ces endroits étaient importants dans l'histoire d'Israël.
Gilgal, mentionné au verset 1, fut le premier endroit où Israël campa lorsqu'ils entrèrent dans la terre promise. Bethel, mentionné au verset 2, fut l'endroit où Jacob vit des anges monter et descendre comme une échelle depuis le ciel. Jéricho, mentionné ici au verset 4, est l'endroit où Israël fit le tour de la ville sept fois avant que Dieu leur donne la victoire. Et le Jourdain, mentionné ensuite au verset 6, est la manière dont Israël a traversé dans la terre promise. En d'autres termes, ce ne sont pas simplement des lieux choisis au hasard que Dieu fait traverser à Élie. Ce sont des lieux importants du passé. C'est comme un rappel de la part de Dieu de se souvenir de sa fidélité dans le passé. Élie lui dit alors, « Je te prie, reste ici, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. » Mais il répondit, « L'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je ne te laisserai pas. » Ils poursuivirent donc tous deux ensemble. 7. 50 hommes d'entre les fils des prophètes vinrent aussi, et se tinrent à distance, pendant que deux s'arrêtaient près du Jourdain.
Les deux hommes s'approchent du fleuve Jourdain. 50 des fils des prophètes étaient également là, observant de loin. Et quelle surprise, ils furent témoins de quelque chose de stupéfiant. 8. Alors Élie prit son manteau, l'enroula et frappa les eaux.
qui se séparèrent d'un côté et de l'autre, si bien qu'ils passèrent tous deux à sec. Cela ne vous rappelle-t-il rien ?
Bien sûr, cela nous rappelle comment Dieu a délivré Israël de l'esclavage en Égypte. Lorsque Moïse a fendu la mer Rouge pour que le peuple puisse échapper aux Égyptiens, il existe de nombreuses ressemblances entre Élie et Moïse. Ici, Élie accomplit un miracle semblable à celui de Moïse, et tous deux traversent à pied sec.
Une auteur dit « Élie est un bon modèle pour les croyants à imiter lorsqu'il s'agit de quitter un jour cette terre. Élie ne s'est pas contenté de rester assis à ne rien faire. Au contraire, il a rendu visite aux étudiants prophétiques. À la prochaine génération, Élie n'a pas dit à Élisée « Je vais te quitter » et ne s'est pas attardé sur des pensées négatives. Il a dit au contraire « Je vais à Bethel, je vais à Jéricho, je vais au Jourdain. » Et il est resté actif jusqu'au moment où le Seigneur l'a appelé à la maison. Tant que tu respires, continue de courir la course à laquelle Dieu t'a appelé. Continue de servir le Seigneur. Continue d'avancer. J'ai récemment regardé une vidéo dans laquelle on interviewait quelques personnes qui avaient 100 ans ou plus. Ils essayaient de leur demander quel était le secret pour vivre si longtemps. Et un homme, je crois qu'il avait 102 ans, a dit que ce qu'il avait maintenu en vie était de ne pas laisser entrer le vieil homme. Il avait vu tellement de membres de sa famille et d'amis mourir. Ses compétences et sa mobilité n'étaient plus ce qu'elles étaient autrefois. Il lui serait très facile de baisser les bras et de dire « Eh bien, je suis vieux.
Que puis-je faire ?» Mais il a refusé.
Comme il l'a dit, il ne laissait pas entrer le vieil homme. Je pense qu'Élie aurait approuvé. À ce stade, il était âgé. Mais ce jour-là, il marchait sur une longue distance. Et jusqu'à la toute fin, il a servi le Seigneur de tout son cœur. J'ai dit plus tôt que vous pourriez penser que vous êtes trop jeune pour avoir quelque chose à donner, mais ce n'est pas vrai. De la même manière, vous pourriez penser que vous êtes trop âgé pour avoir quelque chose à donner, mais ce n'est pas vrai non plus. Continuez d'avancer. Continuez d'aller de l'avant. Continuez de courir. Ne laissez pas entrer le vieil homme. Tant que vous avez du souffle, servez le Seigneur.
9. Lorsqu'ils eurent traversé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que je dois faire pour toi, avant d'être enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Que l'esprit qui est en toi vienne sur moi au double. » Élie dit, « Tu demandes une chose difficile. Toutefois, si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera pas. » Ils traversent le Jourdain, et Élie demande à Élisée s'il a une dernière requête. Élisée demande une double portion de l'esprit d'Élie. Cela fait référence à la loi dans Deutéronome 21, lorsque Dieu donna des commandements concernant le premier-né de la famille. Le premier-né devait recevoir une double portion de l'héritage de son père.
Mais Élisée ne s'intéresse ni à la terre ni à l'argent. Il demande à Élie une double portion de son esprit. Il voulait servir le Seigneur fidèlement, tout comme l'avait fait son mentor, avec courage et obéissance. Mais Élie, pour diverses raisons, dit qu'Élisée a demandé une chose difficile, mais ajoute que cela arrivera si Élisée le voit lorsqu'il sera enlevé, ce qui est exactement ce qui se passe ensuite. 11. Alors qu'il continuait à marcher et à parler, voici que des chars de feu et des chevaux de feu séparèrent les deux hommes. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. 12a. Élisée le vit et s'écria, « mon père, les chars d'Israël et ses cavaliers !» Et il ne le vit plus.
De manière surnaturelle, par des chars de feu, Élie et Élisée furent séparés, et Élie fut enlevé au ciel.
Et en effet, Élisée vit cela se produire, ce qui signifie que sa demande fut exaucée. C'est un moment chargé d'émotions. Il l'appelle « mon père ». Et alors que nous lisons l'histoire et pensons à quel spectacle incroyable cela a dû être, Élisée songe à ce qu'il vient de perdre. Son mentor, son père spirituel, l'homme qu'il a formé, n'est plus là.
Il saisit ses propres vêtements et les déchira en deux morceaux.
Élisée est dévasté. Il déchire ses vêtements en signe de deuil et de tristesse. Que va-t-il se passer maintenant ? Dieu s'était servi d'Élie pour accomplir des choses extraordinaires. Mais à présent, il est parti.
L'œuvre du Seigneur va-t-elle aussi s'arrêter maintenant ? 13. Il ramassa le manteau d'Élie, qui était tombé de lui, retourna, et s'arrêta sur la rive du Jourdain.
Élisée ramassa le manteau d'Élie, et retourna au Jourdain. C'est comme le passage du relais. Le ministère d'Élie est terminé. C'est maintenant le temps d'Élisée. Mais l'œuvre du Seigneur se poursuivra-t-elle à travers Élisée ? Où s'est-elle arrêtée lorsque Élie a été enlevé au ciel ? 14. Il prit alors le manteau d'Élie qui était tombé de lui, frappa l'eau, et dit, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Lorsqu'il frappa l'eau, celle-ci se sépara d'un côté et de l'autre, et Élisée passa. 15. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, en face de lui, le virent et dirent, « L'esprit d'Élie repose sur Élisée. » Ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent à terre devant lui. Élisée a frappé l'eau et elle s'est séparée, tout comme cela venait de se produire pour Élie. Élisée le voit, et les élèves prophétiques le voient aussi. Ils confessent que le même esprit qui agissait à travers Élie repose maintenant sur Élisée. Le relais a été transmis. C'est désormais le temps d'Élisée.
Élie était parti, mais l'œuvre de Dieu continuait sans lui. Dans cette série de sermons, nous avons examiné la vie d'Élie. Mais comme le dit le proverbe, nous devons toujours nous concentrer sur le Dieu de l'homme et non sur l'homme de Dieu. Parfois, lorsqu'un ministre prend sa retraite ou décède, les gens pensent « Oh non, que ferons-nous sans lui ?» Mais le royaume de Dieu ne dépend pas d'une seule personne. Le royaume de Dieu appartient à Dieu. Dans le dernier sermon, j'ai dit que les rois vont et viennent, mais il en va de même pour les dirigeants pieux. Le Seigneur accomplira ses desseins à travers les générations. Et comment fait-il cela ? Quelle est la stratégie de Dieu pour bâtir son royaume ? C'est vous. Vous êtes son messager. Vous êtes son instrument. Vous êtes son vase.
Jésus nous a dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Nous sommes appelés à partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ avec un monde perdu et brisé. Le message que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, qui est venu, a vécu et est mort sur la croix pour nos péchés, a été enseveli, mais ressuscité au bout de 3 jours. Vous êtes appelés à partager la merveilleuse nouvelle que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi en Jésus. La stratégie de Dieu pour bâtir son royaume, c'est vous. Vous tenez le relais. La question est, qu'allez-vous en faire ? Allez-vous le garder dans votre poche ? Ou chercherez-vous à le transmettre à la génération suivante ?
Il est facile de penser ou d'espérer que quelqu'un d'autre le fera à notre place.
Mais Dieu vous a placé de façon unique dans une position d'influence sur quelqu'un dans votre vie.
Dieu a mis quelqu'un comme Élisée au milieu de vous.
La question est, relèverez-vous le défi? Investirez-vous dans la prochaine génération?
Que faites-vous avec votre relais?
Ce matin, alors que nous parlons des générations, dans certaines parties du monde,
aujourd'hui, c'est la fête des pères. En Pologne, la fête des pères aura lieu la semaine prochaine.
Les pères jouent un grand rôle dans nos histoires. Les pères ont un impact immense sur la prochaine génération.
L'année dernière, Marcus a partagé le témoignage puissant de la manière dont Dieu a restauré sa relation avec son père. Pendant des années, Marcus croyait que son père était mort, pour finalement découvrir en ligne que son père était vivant.
Marcus a repris contact et ils ont maintenant une relation qui perdure à ce jour. Vongai va venir partager l'histoire de ce que Dieu a fait dans la relation entre elle et son père. Je suis sûr que certains d'entre vous se reconnaîtront dans ce qu'elle va partager.
Baptême. Tout à l'heure, j'ai lu Matthieu 28, 19-20, où Jésus nous dit de faire de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Le baptême est une manière publique de dire au monde que je suis avec Jésus et que je n'en ai pas honte.
Le modèle que nous voyons dans le Nouveau Testament est qu'une personne croit d'abord, puis elle est baptisée.
Le baptême nous aide à enseigner la bonne nouvelle de Jésus-Christ.
Quand une personne est plongée entièrement dans l'eau, cela symbolise la mort de Christ sur la croix,
qui était nécessaire à cause de notre péché.
Nous avions besoin d'un sauveur, et le sacrifice du Christ sur la croix était la seule façon pour que nos péchés soient pardonnés
et que nous puissions être réconciliés avec Dieu. Et lorsque le croyant ressort de l'eau,
cela symbolise la résurrection du Christ,
3 jours après avoir été crucifié.
Cela montre que Christ était bien le Fils de Dieu.
Le baptême nous aide aussi à comprendre comment nous devons répondre à l'Évangile. Quand une personne entre dans l'eau, cela représente sa vie avant de croire en Christ. Cette ancienne vie est enterrée et disparaît.
Mais lorsqu'ils sortent de l'eau, cela représente leur nouvelle vie en Christ. Qu'ils ont mis leur confiance en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ils sont en effet de nouvelles créations.
Être baptisé ne sauve pas, mais cela symbolise l'œuvre que Dieu accomplit dans notre cœur lorsqu'il nous sauve. Si tu as placé ta foi en Jésus-Christ et que tu n'as pas été baptisé, je t'encourage à faire le prochain pas et à te faire baptiser.
Nous sommes donc heureux que tu sois ici pour célébrer ce grand moment dans la vie de Benjamin.
Benjamin, voudrais-tu venir partager?
C'est notre joie et privilège aujourd'hui, Benjamin, de te baptiser comme notre frère en Christ.
Puissions-nous être des personnes qui prient pour toi, prennent soin de toi, t'encouragent et t'édifient alors que tu fuis Jésus-Christ.